Vous écoutez RTL.
RTL, il est 22h.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, l'ultra-fermeté contre les violences en marche des manifestations. Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé ce soir les grandes idées, les grandes lignes de la répression en affichant un message fort. Les violents n'auront pas le dernier mot. Le gouvernement a donc décidé, dans un premier temps pour samedi prochain, de déployer un dispositif de sécurité considérable en cas de nouvelle mobilisation citoyenne. Et puis, le Premier ministre qui aussi veut durcir la loi contre les casseurs et les manifestations non déclarées. Tout cela après un samedi de contestation marqué par des images fortes, très fortes, comme ce boxeur vengeur d'un côté qui s'en prend à deux policiers à Paris et de l'autre un commandant de police ulcéré qui frappe plusieurs manifestants à Toulon. Dans l'actualité également, le cardinal Barbarin face à la justice à Lyon pour la première journée d'un procès destiné à lutter contre le silence de l'Église. La météo, petite perturbation attendue dès demain matin. Et puis à 22h20, votre magazine de l'écho parlera immobilier et agriculture. Le football, Lille-Sochaux, la suite des 32e de finale de la Coupe de France. Avec vous, Hervé Beug.
Et c'est Lille qui mène devant Sochaux 1-0.
Et n'oubliez pas, comme chaque soir, 22h30, votre rendez-vous jusqu'à 1h du matin avec Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
À l'ultra-violence, nous opposerons l'ultra-fermeté. Le gouvernement a donc passé sa journée à réfléchir aux meilleurs moyens de condamner les faits encore plus fermement qu'aujourd'hui. Et dans le journal de 20h de nos confrères de TF1, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé ses conclusions et les premières mesures en s'attaquant notamment aux casseurs. Les violents n'auront pas le dernier mot, ils n'auront jamais raison. Un Premier ministre qui veut plus de réglementation quant à la déclaration obligatoire également de manifestation.
Le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulées. Aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ça doit être un délit. À faire en sorte que la responsabilité civile des casseurs soit très sérieusement et très complètement engagé, de façon à ce que ce soit les casseurs qui payent, et pas les contribuables, qui payent pour les dommages qui sont causés.
Des casseurs payeurs pour Édouard Philippe, création également d'un fichier à l'image du football hein, pour éradiquer le hooliganisme il y a quelques temps dans les stades. Ajoute à cela plus de matériel à la disposition des forces de l'ordre, plus de mobilité aussi. Je vous parlais d'un dispositif de sécurité considérable qui pourrait être mis en place donc pour encadrer une éventuelle journée de mobilisation samedi prochain. On parle de 80 000 policiers dans tout le pays et de gendarmes bien sûr, et 5 000 forces de l'ordre rien qu'à Paris, à l'image des méthodes employées, on s'en souvient, à la mi-décembre. Réaction, sans plus tarder, de Bruno Retailleau, il est le chef de file des Républicains au Sénat. Réaction tenue il y a quelques instants par Marie Benitaler. Bruno Retailleau qui revient sur cette proposition de loi anti-casseurs, une loi qu'il avait proposée et fait voter d'ailleurs au Sénat.
Aujourd'hui, c'est la violence qui est en train de menacer le droit de manifester paisiblement. Aujourd'hui, la faille de système, c'est que vous n'êtes pas condamné si on n'arrive pas à montrer et à prouver votre identité. Et si vous masquez votre identité, eh bien voilà, le tour est joué. Donc ça n'est pas possible. Je pense qu'en France, si vous voulez que demain, on puisse avoir des manifestations dans le calme, précisément pour garder et sauvegarder ce droit précieux, encore une fois constitutionnellement garantie, eh bien je pense qu'il faut mettre hors d'état de nuire des casseurs.
Bruno Retailleau avec Marie-Bénédicte Allaire du service politique de la Première et d'autres France. Autre réaction à venir ce soir dans RTL Grand Soir, celle des forces de l'ordre avec notre invité. Dès la fin du journal, dans 10 minutes maintenant, David Lebars, il est le secrétaire général du SCPN, syndicat des commissaires de la police nationale. Et puis aujourd'hui, à l'étranger, le gouvernement populiste italien a officiellement affiché son soutien au mouvement citoyen et a appelé les Gilets jaunes à ne pas faiblir dans leur combat. Un boxeur également à l'affiche, Christophe Détinger, ancien champion de France de 33 ans, qui en fin de matinée a posté une vidéo pour exposer sa vision d'un véritable combat qu'il ne souhaitait pas engager samedi dernier face aux forces de l'ordre. Image forte bien sûr, message publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la part du boxeur avant de se présenter à la police à midi. Depuis, il est en garde à vue. Alors Quentin Vinet, vous êtes devant le commissariat, que risque concrètement ce pratiquant du noblard ?
Ces violences ont été filmées. Deux vidéos sur lesquelles on distingue le visage et la carrure de Christophe Détinger. Il frappe et fait reculer sur plusieurs mètres le premier gendarme, pourtant protégé par un casque et un bouclier. Et il donne coups de poing et coups de pied au deuxième gendarme qui est à terre. L'ancien boxeur de 37 ans, père de 3 enfants, dit donc qu'il était en colère, qu'il a mal réagi avec ces violences commises sur des membres des forces de l'ordre, ce qui est une circonstance aggravante aux yeux de la justice. Le code pénal prévoit dans ces cas-là une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. La garde à vue a commencé à la mi-journée. Elle peut durer jusqu'à 48 heures, autrement dit jusqu'à mercredi midi, dans ce commissariat parisien où l'employé municipal de l'Essonne est interrogé par des policiers de la Sûreté territoriale.
Merci pour toutes ces précisions. Quentin Vinet pour RTL. Du côté des deux gendarmes agressés par Christophe Détinger sur ce pont parisien, l'un des deux officiers blessés a bien voulu s'exprimer ce soir au micro RTL d'Olivier Bois.
D'abord, on se demande ce qui se passe parce qu'on est tiré vers l'arrière pour se retrouver au sol. Et là, c'est la pluie de coups. Moi, en l'occurrence, je sentais les coups. Les seuls que j'ai pu apercevoir, c'est ceux du fameux boxeur. Donc des coups de pied en plein visage. Quand on essaye de casser le casque pour accéder au visage, c'est que là, il y a un problème. C'est de la violence, c'est pure et dure. Et quand on ressent les coups, parce qu'on a beau être protégé, les coups sont ressentis. Et donc oui, on sait que là, c'est de la survie, il faut se relever.
On le voit sur vous, puisque là, vous avez le bras en écharpe. Vous avez été pour le coup plus sévèrement blessé. Vous, comment vous sentez aujourd'hui ?
C'est difficile. Je vous l'avoue. Vivre les événements, c'est dur. Les revivre à la télé, ça l'est tout autant. Je vais m'en remettre physiquement. Psychologiquement, ça sera peut-être un peu plus long. C'est aussi dur pour les familles qui voient ça. Elles ne peuvent pas être là tout de suite. Elles voudraient bien être à notre chevet ou tout du moins pouvoir nous entendre ou nous serrer. Mais bon, pour le moment, c'est pas possible. Je vais attendre un petit peu avant de les revoir.
Témoignage recueilli par Olivier Bois, service police-justice d'RTL. La réponse par la violence, parfois dans le camp d'en face aussi. À l'image de ce commandant de police toulonnais qui s'en est pris à des manifestants samedi, lui aussi, il a évoqué la légitime défense, mais deux informations judiciaires ont été ouvertes à l'encontre de cet officier qui a reçu la Légion d'honneur il y a à peine une semaine. L'une des personnes qui a subi lire la colère du policier a bien voulu vous rencontrer cet après-midi, Étienne Baudu, et revenir bien sûr sur les faits.
Oui, il s'agit de Laurent, un des deux frères que l'on voit sur une vidéo interpellé de façon musclée par plusieurs policiers, dont le commandant Andrieux. Cet après-midi, après 48 heures de garde à vue, ce gilet jaune a été entendu par un juge et mis en examen pour outrage, rébellion et violence sur personne, dépositaire de l'autorité publique. Laurent revient sur son interpellation, sans forcément d'ailleurs accabler l'officier de police.
Je peux comprendre qu'il pète les plombs. Ils envoient tellement, je le blâme pas. Parce que hier, j'ai parlé justement avec un policier. Quand j'étais en garde à vue, il m'a dit que c'était pas un mauvais gars. Je veux bien le croire. Mais il a pété les plans. À ce moment-là, il a pété les plans.
Alors reste à déterminer l'attitude de l'officier. Une enquête de l'IGPN est diligentée. Il parle de légitime défense cet après-midi-là. Et selon le procureur de la République, Bernard Marchal, la riposte a été, semble-t-il, proportionnée, en tout cas pour un des autres interpellés.
Selon ses affirmations, il indique que le prévenu tenait un tesson de bouteille dans la main. Et c'est ce qui a justifié les deux coups qu'il lui a portés au visage pour lui faire lâcher ce tesson et éviter des blessures plus graves. Auquel cas, si c'est avéré, ça peut démontrer une certaine proportionnalité.
Et les mises en examen qui pourraient d'ailleurs à leur tour porter plainte contre l'officier de police.
Enquête dans le Var signée Étienne Baudu, RTL Marseille. On l'a bien compris, l'État aimerait que le grand débat national sur les revendications des Gilets jaunes se passe dans la concertation, la communication et avec un peu plus de sérénité. Et voilà que beaucoup aujourd'hui ont découvert en pleine discussion sur le pouvoir d'achat que la présidente de la Commission nationale justement du débat public, Chantal Jouanneau, bénéficiait d'un salaire conséquent pour cette mission. On parle, Olivier Bost, d'une rémunération de plus de 14 000 euros bruts.
Oui, c'est quand on compare ces chiffres à d'autres rémunérations que cela peut surprendre. Le Premier ministre et le chef de l'État touchent à peine plus par mois, 744 euros bruts de plus pour être précis. Chantal Jouanneau est mieux rémunérée que les ministres et notamment que son voisin au ministère de la Transition écologique, François de Rugy. Mais attention, ce n'est pas pour elle qu'a été fixé ce salaire, il s'agit du salaire de la fonction qu'elle occupe, la rémunération du président de cette commission du débat public. Ses prédécesseurs et ses successeurs ont touché ou toucheront la même chose. Chantal Jouanneau ne gagne pas plus pour l'organisation du grand débat. Parmi toutes les commissions et autorités indépendantes qui existent, cette rémunération est quand même plutôt dans le haut de la fourchette. Chantal Jouanneau a une rémunération comparable à celle du président d'Adopi, l'autorité chargée de lutter contre le piratage, ça existe encore, au défenseur des droits ou au contrôleur général des prisons, le président du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et celui de l'autorité de la sûreté nucléaire sont mieux payés. Chantal Jouanneau a dit qu'elle comprenait que sa rémunération puisse choquer. Si les gens veulent faire une proposition pour réviser ce salaire, ils en sont totalement libres, a-t-elle dit. C'est le credo de Chantal Joanneau. On peut débattre de tout pendant le grand débat, y compris donc de son salaire.
Merci à vous, Olivier Bost, service politique d'RTL. Puis concernant ce pouvoir d'achat, une proposition également de plusieurs députés qui souhaiteraient finalement que la taxe d'habitation ne disparaisse pas complètement, pour tout le monde d'ailleurs. L'idée étant de la conserver pour les foyers considérés comme aisés.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
La première journée du procès de Mgr Barbarin à Lyon, accusé de ne pas avoir dénoncé en son temps des faits de pédophilie, des agressions sexuelles sur mineurs commises par le père Prénat. On se souvient de la phrase malheureuse du cardinal en 2016. Grâce à Dieu, la majorité des faits étaient prescrits. Mgr Barbarin qui a dû finalement très vite, aujourd'hui Frédéric Perruche, répondre aux premières questions.
Oui, le cardinal Barbarin avait prévu initialement de lire une simple allocution de quelques minutes avant finalement, contraint par une présidente pugnace, de répondre longuement aux questions. Je suis venu devant vous par respect pour la justice et pour les victimes trahies par un prêtre et blessées dans l'innocence de leur enfance. Mais moi, je suis injustement accusé. Je n'ai jamais caché des faits que j'ai appris formellement par la voix d'une victime, Alexandre, en novembre 2014. Après, j'ai fait ce que Vatican m'a dit de faire. J'ai écarté le père Prénat à l'époque. Était 2015. Mais un peu tard, reprend la présidente. Il y a eu des rumeurs dès 2004-2005. Prénat lui-même, en 2010, vous en a parlé. Il m'a dit que c'était du passé, rétorque l'archevêque, qu'il avait cessé ses pratiques en 1991. Je l'ai cru, je n'ai pas demandé plus de précisions sur la gravité des actes ou le nombre des victimes. J'ai peut-être eu tort, on me l'a beaucoup reproché. J'ai sûrement fait des erreurs, conclut Philippe Barbarin, mais je ne vois pas en quoi je suis coupable.
Récit de cette première journée de procès à Lyon avec vous, Frédéric Perruche. 4 ans après la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, un hommage a eu lieu ce lundi devant les anciens locaux du journal satirique où 11 personnes ont été assassinées ce 7 février 2015. Hommage également été rendu aux victimes de Montrouge et de l'hypercachère. C'était au mois de janvier, bien sûr, 2015. Le doyen des compagnons de la Libération, Guy Charmeau, est décédé aujourd'hui à l'âge de 104 ans. Il ne reste donc plus aujourd'hui que 4 de ses derniers résistants de la première heure de la Deuxième Guerre mondiale. Encore en vie. À l'étranger, au Japon, le grand oral, c'est demain matin pour Carlos Ghosn, le grand patron automobile du groupe Nissan Renault, bien sûr, en France. 10 minutes chrono pour clamer son innocence et demander sa libération après avoir été mis en détention il y a un mois et demi au Japon pour malversation et dissimulation de revenus. Aux États-Unis, Kaiser Soze dans Usual Suspects ou encore le président Underwood d'House of Cards, Kevin Spacey, a été inculpé ce soir d'agression sexuelle sur un jeune serveur. En Afrique, une tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats a échoué ce matin au Gabon, pays dont le président Omar Bongo, malade, est absent depuis 2 mois et demi et où le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes. Le chef du commando de ce matin a été arrêté. 2 autres membres du commando ont été tués. Ces militaires étaient apparus tôt dans la matinée à la radio-télévision nationale en appelant à un soulèvement. Le football à 22h12, on y retourne. C'est le dernier, quasiment le dernier 32e de finale de la Coupe de France. Lille face à Sochaux. Hervé Veugue.
Oui, parce qu'il en restera un la semaine prochaine. Ce sera d'ailleurs le vainqueur qui rencontrera le Paris Saint-Germain. 1-0 pour les Lillois qui dominent cette rencontre. Ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions. Il a fallu attendre la 38e minute pour un bon travail de Nicolas Pepe, l'attaquant en forme de cette année lilloise, pour centrer sur Arojo, le Brésilien, qui de la tête a trompé le gardien Doubien ou Doubiste, c'est comme l'on veut. En tout cas, Lille met 1-0 après 58 minutes en seconde période.
Voilà, en cas de qualification, Lille jouera donc contre Grenoble ou Strasbourg. Match qui n'a pas pu être disputé le week-end dernier pour cause de pelouse gelée. Une petite polémique pour bien commencer l'année du côté de l'écrivain Yann Moix. À l'occasion de la sortie de son livre Rompre, il a notamment déclaré au magazine Marie Claire qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans, préférant le corps de jeune fille de 25 ans. Les réactions féminines comme au masculin n'ont pas manqué aujourd'hui à l'image. Cette déclaration signée de la présentatrice Valérie Damido, jointe par Agnès Bonfillon.
Je ne reproche pas d'aimer les femmes de 25 ans, c'est son problème, j'ai aucun souci, je m'en fous en plus. Mais alors, le dire aussi violemment que les femmes de 50 ans sont invisibles, qu'elles ont un corps dégueulasse, il le dit à ses amis dans son salon, mais se permettre de dire que les femmes de 50 ans sont invisibles, je trouve que c'est vraiment violent. Même pour les femmes de 25 ans, je trouve que c'est dingue de dire des trucs pareils, c'est fou, quelle violence mon Dieu. Quelle violence!
Valérie Damido avec Agnès Bonfillon. Et puis ce soir, Yann Moix était l'invité de Marc-Olivier Fogiel. En exclusivité, il persiste et il signe.
La première chose, c'est que je ne vis pas ça comme une fierté, mais presque comme une malédiction. Ce n'est pas de ma faute. On n'est pas responsable ni de ses goûts, ni de ses penchants, ni de ses inclinations. Je ne suis pas là en train de pérorer en disant « fabuleux, les femmes de 50 ans m'attirent moins que les femmes de 25. Je dis simplement que je regrette infiniment le fait de ne pas avoir une sorte de pulsion qui m'attire vers des femmes différentes, qu'à chaque fois je retombe dans les mêmes schémas. Le système est tellement pervers que mes ventes sont en train de monter en flèche, ce qui est absurde parce que je ne vois pas de corrélation entre mon livre, qui parle de la souffrance, de la mélancolie, de l'incapacité d'aimer, et des propos que je ne regrette pas, parce qu'ils ne regardent que moi, et j'aime qui je veux, et je n'ai pas à répondre au tribunal du goût, qui est pour moi une absence totale de goût.
Yann Moix dans RTL Grand Soir, à côté de Marc-Olivier Fogel ce soir. La météo, pour terminer le journal, c'est avec vous, Patricia Charbonnet. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. Et bien, après plusieurs jours de blocage anticyclonique, la situation météo va changer pour demain avec une perturbation qui arrive ce soir par les Hauts-de-France. Cette perturbation très atténuée va donner quand même quelques pluies demain tout au long de la journée en progressant vers le sud. Et surtout, bonne nouvelle, elle va donner de la neige sur les massifs de l'Est, sur les Vosges, le Jura et sur le nord des Alpes et sur le massif central et ceux à basse altitude à partir de 600 mètres. Après le passage de la perturbation dans l'après-midi sur la moitié nord, on espère revoir quelques éclaircies, en particulier sur les côtes de la Manche. Et puis dans le sud, le temps sera de plus en plus nuageux et humide. Et attention, risque de pluie verglaçante demain en fin d'après-midi dans le sud-ouest, en particulier sur le Tarn et l'Aveyron, avec des températures de saison, moins 3 à 7 degrés pour demain matin et 3 à 16 degrés dans l'après-midi, 3 degrés à Aurillac, 6 à Mulhouse, 7 à Nancy comme à Montauban, 9 à Paris, 11 à Marseille et 16 à Toulon.
Merci beaucoup Patricia Charbonnier. Dans un instant, le portrait du soir avec Isabelle Choquet, puis votre magazine de l'écho.
RTL Grand Soir, le portrait du jour.
L'homme du jour dans RTL Grand Soir, c'est avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir.
Il est jugé aujourd'hui pour avoir gardé le silence sur des agressions pédophiles commises par un prêtre. Portrait de Monseigneur Barbarin en clair-obscur.
C'est ce qu'on appelle avoir du flair. En 1977, Philippe Barbarin est ordonné prêtre dans le diocèse de Créteil. Curé de banlieue, voilà son destin et il en est heureux. Mais à qui envoie-t-il son faire-part d'ordination ? À l'archevêque de Cracovie, un certain Karol Wojtyla qui le fera cardinal 25 ans plus tard. Génération Jean-Paul II. Aujourd'hui, c'est avec le pape François qu'il échange des SMS. Même style direct, même énergie. Vita brevis aime à répéter celui qu'on a surnommé Monseigneur 100 000 volts. La vie est courte. La sienne est bien remplie de rabats où il est né au conclave du Vatican, en passant par Madagascar. Partout, on se souvient de cet homme charismatique aux phrasés étranges, un peu gouailleur, un peu mondain. Ce curé fan de Tintin, adepte de la course à pied et passionné d'astronomie, qui remplit les églises avec des homélies fougueuses où la Bible parle d'actualité.
Et là aussi, il est assez inclassable, Isabelle.
Éteignez la télé, allumez l'évangile. Message qui claque comme un slogan à son arrivée à Lyon en 2002. Philippe Barbarin n'a jamais oublié Madagascar, où il a découvert la pauvreté. Sitôt installé, il décide d'abriter des sans-papiers dans la cathédrale Saint-Jean. Il va à la rencontre des Roms, il s'investit auprès des chrétiens d'Orient en Irak, en Syrie, mais il travaille aussi avec le grand rabbin et le recteur de la mosquée de Lyon. Bref, une fibre sociale et un esprit ouvert. Et pourtant, sur le dogme, il est intraitable. Le christianisme cool n'a pas d'avenir, dit-il. Il est à la pointe du combat contre le mariage pour tous, contre le préservatif. Parlant de l'avortement, il évoque même le drame de ces 200 000 petits Français qui meurent chaque année.
Un style qui séduit, mais qui agace aussi.
Talentueux, mais ingérable, il porte haut la voix de l'Église, mais il la met parfois en porte-à-faux. Par exemple, quand il s'oppose à l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. C'est un sale gosse qui aime se mettre en avant, disent ses détracteurs. On lui reproche sa désinvolture, son arrogance. C'est quelqu'un qui n'est écoute pas, par définition, il sait, dit un prêtre. Un autre confirme, ceux qui pouvaient le contredire ont disparu de la circulation. Dans ces conditions, pas étonnant qu'il ait trouvé si peu de soutien dans l'affaire Prena, une affaire qui l'a profondément transformé, dit-il, et qui le laisse désemparé. Jusqu'à ma mort, dit-il, je resterai le plus grand pédophile de France. Il y a quelques semaines, dans le TGV, un passager lui a craché dessus.
Un portrait signé ce soir, Isabelle Choquet, à demain.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
3 minutes pour comprendre.
Les violents n'auront pas le dernier mot, ils n'auront jamais raison. Les propos forts du Premier ministre ce soir chez nos confrères de TF1 pour une déclaration très attendue. David Lebars, pour la commenter, est avec nous. Il est secrétaire général du SCPN, le syndicat des commissaires de la police nationale. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
Une loi anti-casseurs, plus de matériel, plus de mobilité, et puis également sanctionner les manifestations non déclarées. Vous êtes satisfait de ces premières mesures ?
Satisfait, ça serait un grand mot, mais on espérait qu'il y ait des annonces qui donnent des outils à la police afin de pouvoir traiter de manière plus efficace, non pas les manifestants, mais surtout les casseurs et tous ceux qui viennent faire dégénérer les mouvements. Après, il y a eu certaines annonces par le Premier ministre. Il y en a qui prendront du temps, donc elles ne régleront pas pour nous les problèmes des prochaines manifestations.
Le Premier ministre parle de début février, logiquement, tout devrait être planifié.
Oui, ça nous fait déjà, si on part sur début février, ce qui serait d'ailleurs une bonne nouvelle, ça nous fait déjà un mois de janvier assez chargé, hein, si ça se renouvelle tous les samedis. Mais enfin, ce sera déjà une première mesure, en espérant que les députés et les sénateurs les votent. Après, ce qu'on aimerait avoir en précision, et on le demandera, ça sera de voir quelles sont les orientations précises qui vont être prises, puisque le Premier ministre a été assez évasif sur des sujets comme le port de la cagoule en tant que délit, ou sur les allusions par rapport aux interdictions de manifester
c'est pas si simple que les footballeurs, c'est bien ça. C'est parce qu'on va au football pour du plaisir, là on va pour manifester, qui est un droit fondamental en France.
Oui, et puis surtout, interdire quelqu'un d'aller dans un stade qui est une enceinte fermée, c'est assez facile à faire. En revanche, interdire quelqu'un d'aller manifester et de fréquenter une ville, c'est une autre mesure.
Mais au moins, enlever la cagoule, déjà, pour venir manifester, c'est déjà un plus. Condamner, finalement, plus que verbaliser, que ce soit une loi, quoi.
Oui, ce sera de toute façon un outil supplémentaire. Après, soyons lucides, il est toujours difficile dans des nébuleuses d'aller chercher des gens qui sont porteurs de la cagoule. Hein. Vous savez bien que le contact physique sera périlleux pour les policiers. Je crois qu'il faut également envisager d'aller plus loin. Sur le système allemand, il y a une infraction qui consiste à être en contravention quand vous avez une cagoule, un masque de ski, un masque à gaz, c'est-à-dire des moyens de protection. C'est des mesures préventives qui permettent d'enlever le matériel aux gens avant qu'ils arrivent sur les lieux de la manifestation et de leur faire une simple contravention et une signalisation qui dissuade après de se rendre sur les lieux de la manifestation. Il faut pouvoir réfléchir à ce qui se passe chez nos voisins européens qui ont des bons systèmes.
Des bons systèmes, et on revient sur cette loi quand même qui peut-être s'appliquer comme pour les stades de football, comme pour les hooligans. Visiblement, Matignon confirme la possibilité de le faire. Hein. Mais vous le dites, c'est compliqué alors qu'on vous propose plus de matériel, plus de mobilité aussi. Hein.
Alors, pour le matériel, il faut être lucide. Hein, le temps que les bons matériels, et il va falloir savoir ce qu'on veut acheter, soit acheter, ça ne se fera pas sur les jours à venir. Hein, c'est toujours long, les achats publics. Sur l'aspect législatif, si ça peut se faire, c'est très bien. Mais encore une fois, je vous dis, ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment on empêche un individu radicalisé de se rendre sur les lieux d'une manifestation. Ça n'est pas une enceinte fermée. Comment on met en exécution la mesure? Est-ce que quelqu'un vient pointer et reste au commissariat? Ou est-ce qu'il est assigné chez lui? Voilà. Il va falloir qu'on sache quels sont les outils juridiques qu'on nous donne. Et puis après, sur les autres mesures, je vous dis, on est en attente de moyens, je dirais, qui soient ceux de l'avenir. Hein, parce que maintenant, on voit que les manifestations qui ont dégénéré sont devenues un phénomène récurrent. Il va falloir adapter les forces de l'ordre à ces nouvelles formes de menaces.
On parle de 5 000 policiers, 5 000 forces de l'ordre à Paris pour le week-end prochain, en cas de prochaine manifestation, 80 000 sur l'ensemble de la France. En tout cas, des casseurs payeurs désormais voulus par le gouvernement. Mais il faut vite mettre ces choses en place. On a bien compris, David Lebars, votre vision des choses. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, était l'invité ce soir d'RTL Grand Soir.
RTL Grand Soir, la minute du Mag Echo.
La minute conso, c'est avec vous Armel Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Les prix de l'immobilier ne cessent de flamber, le nombre de ventes aussi. Armel, on a frôlé le million de transactions l'an dernier en France, et ce d'après le réseau Century 21.
Et oui, à 2600 euros le prix moyen du mètre carré en France, en hausse de 3,5% sur un an pour les maisons et d'un peu plus d'1% pour les appartements. Cela n'empêche pas les Français d'investir dans la pierre, pour une bonne raison. Les taux sont bas et les prêts de plus en plus longs, un peu plus de 20 ans. Donc pour devenir propriétaire, les Français n'hésitent pas à sacrifier quelques mètres carrés. Résultat, les ouvriers et employés représentent aujourd'hui 40% des acheteurs dans toute la France et près de la moitié des acquéreurs ont moins de 40 ans.
Sauf à Paris, qui reste un cas bien sûr particulier, devenu inaccessible, Armel, aux classes moyennes.
Ah oui, alors là, les prix parisiens ont triplé en 18 ans. On est passé de 3 000 euros à 9 500 euros le mètre carré. Donc il y a encore 10 ans, les employés et ouvriers représentaient 15% des acquéreurs à Paris, ils ne sont plus que 5% aujourd'hui. Ce sont les cadres supérieurs et les professions libérales qui représentent le gros du marché parisien.
Merci beaucoup Armel Lévy, on se retrouve demain.
À demain.
RTL Grand Soir, le mag de l'écho.
RTL Grand Soir, vous nous présentez l'invité du magazine de l'écho ce soir, Jean-Baptiste Giraud. Bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe, notre invité ce soir est Véronique Le Floch, secrétaire générale de la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole français. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Si on vous invite, c'est parce que c'est en ce moment les élections. Les élections en Chambre d'agriculture, les agriculteurs vont voter dans les jours à venir. Ils ont 15 jours pour voter. C'est un moment important pour les agriculteurs, ces élections.
Tout à fait, c'est un moment très important, puisque en agriculture, c'est le seul domaine dans lequel il n'y a pas d'alternance. Il y a un syndicat majoritaire, qui est la FNSEA, qui est en place depuis toujours et qui mène une agriculture qui est orientée vers l'export. Et c'est une façon de produire qui ne ramène pas de prix dans nos exploitations. Qui dit pas de prix, dit pas de revenus. Et aujourd'hui, un problème en termes de nombre d'exploitations, un problème en termes d'installation. Et donc, il y a franchement tout à revoir pour relancer cette agriculture qui est une des meilleures et des plus résilientes dans le monde.
Le gouvernement, pourtant, il fait quelque chose. Depuis le 1er janvier, avec la loi alimentation, la grande distribution n'a plus le droit de faire des promos au canon sur l'alimentaire. C'est plutôt une bonne chose,
comme
ça.
Comme on avait vu avec les pots de Nutella, par exemple.
Ces promotions-là, elles n'auraient pas lieu d'exister si on avait une régulation en termes de production. Les promotions viennent du fait de tous les excédents, dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, on voit bien les industriels et la distribution qui se battent pour ces promotions parce que ce sont des produits d'appel. L'alimentaire concerne tout le monde et en faisant venir les clients, ils achèteront tout le reste.
Alors, on va prendre un exemple. Le prix du lait. Aujourd'hui, la bouteille de lait est vendue entre 70 centimes et 1 euro en supermarché, en fonction de la qualité, en fonction de la marque. Le producteur de lait, lui, aujourd'hui, il est payé quoi? 32, 33 centimes à tout casser le litre?
Alors, justement, le prix pour le premier trimestre est annoncé autour de 33 centimes,
ouais, 33 centimes
dans la plupart des laiteries. Ça ne couvre pas les coûts de production. Des coûts de production que l'on a fait évaluer selon une méthode qu'on a définie ensemble avec l'interprofession laitière, puisqu'on est dans le cas du lait, et qui donne pour résultat 396 euros, donc 39,6 centimes, près de 40 centimes. Pour autant, quel...
Donc le producteur du lait, à 33, il perd de l'argent.
Eh bien, tout à fait. À 33 centimes, le producteur...
Il perd 7 centimes par litre.
Il n'est pas rémunéré. À ce prix-là, les producteurs ne continuent plus à investir dans leur outil.
C'est toujours aussi compliqué, en tout cas, dans ce domaine agricole. On sait que les conditions sont difficiles. Gagner de l'argent, c'est presque mission impossible pour beaucoup d'agriculteurs. Certains se donnent même la mort. Aujourd'hui encore?
C'est un vrai problème et c'est le seul secteur économique où on a l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être cru.
Je vous pose la question directement. Comment se fait-il que tous les agriculteurs n'aient pas enfilé leur gilet jaune? Parce que c'est le moment.
Oui. Nous sommes aussi des gilets jaunes, nous, à la coordination rurale. Il y a 25 ans, nous étions déjà des gilets jaunes.
Vous avez créé le syndicat, effectivement, en 92.
Puisqu'à ce moment-là, il y avait une réforme importante de la politique agricole commune et on allait figer les prix de nos produits à un niveau pour qu'ils soient compétitifs pour être exportés. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur les mêmes prix, 25 ans plus tard, et en plus, les aides de la PAC diminuent. Donc, on a perdu sur tous les tableaux en se faisant en plus passer pour des assistés. Le prix du lait d'aujourd'hui, c'est le prix des années 86-87. Réactualisé, on serait à 52-53 centimes.
Vous venez de dire, on est les gilets jaunes, donc je vous pose la question. Ici, dans RTL Grand Soir, vous allez appeler vos syndicats 20% des voix aux dernières élections à enfiler un gilet jaune pour les prochains samedis.
Nous sommes en permanence en action dans différents lieux de France et nous sommes très appréciés. Les premières sorties, les premiers samedis où nous étions présents, beaucoup nous faisaient la remarque, mais vous les paysans, vous n'êtes pas là. Sauf que on leur dit, mais comment tu peux savoir qu'un paysan est là ou n'est pas là? Comment tu peux savoir qu'un plombier est là ou n'est pas là? Donc nous sommes par la suite venu avec nos tracteurs.
Voilà, les tracteurs au moins, c'est visible.
Et voilà, c'est visible. Mais bien sûr, les agriculteurs aujourd'hui veulent faire passer le message de ce que nous, on a vécu. On ne peut pas, en fait, vivre d'aide. Le message que veulent passer aussi les citoyens, c'est qu'ils veulent vivre de leur salaire.
Bien sûr.
Et c'est tout, quoi.
Nous sommes le lundi vert. C'est tout nouveau, tout beau. On a parlé vendredi soir avec vos amis de la filière bovine. Que pensez-vous de cette journée sans poisson et sans viande, déjà dans un monde agricole qui est bien touché?
Il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que ce lundi sans viande et sans poisson.
Qui vient d'un collectif de personnalités.
Est quand même dangereux vis-à-vis de certaines familles qui font remonter auprès des cantines et des collectivités que s'il n'y avait pas de la viande dans ces cantines, leurs enfants n'auraient pas de viande ou de poisson.
Ouais. Véronique Lofloc, secrétaire générale de la coordination rurale.
Merci d'avoir été notre invitée ce soir, en tout cas, madame. Véronique Lofloc, invitée du magazine de l'Écho avec la complicité de Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.
Vous aimez RTL? Vous adorerez RTL.fr.
Premier site internet radio de France.
Le football pour conclure, RTL Grand Soir. Le retour, 32e de finale entre Lille et Sochaux, Hervé Veugue.
Il reste 12 minutes, 13 minutes à jouer et Lille mène 1-0.
Bien parti peut-être pour Lille pour une place en 16e de finale face soit à Grenoble, soit à Strasbourg. Match qui se disputera la semaine prochaine. 22h30 tout pile, il est grand temps de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe.
Ah, j'aime bien la petite musique que Pierre Nabé nous a trouvée ce soir.
Oui, c'est chouette. Moi aussi, j'aime beaucoup.
C'est James Ingram, c'est ça, Pierre? Ah oui, il y a Moby There. Ah oui, oui, grand classique. Un classique pour démarrer la soirée, là. Bien,
c'est... Ah, c'est chouette, ça met de l'ambiance.
Il y a Moby There.
1984, me dit Marc Bisset.
Ah, ça, c'est votre réalisateur.
Ah, ben oui.
Il a les infos, hein?
Ah, il a toutes les infos.
Il est formidable, hein, ce garçon.
Bon, ça donne envie de danser, ça.
Oui, ou de vous parler?
Ben, ça serait bien.
Ça serait bien aussi.
Ça serait bien.
On a tant de choses à se dire.
Parce qu'on est là pour ça, pour se parler.
Et il faut composer un numéro de téléphone, comme tous les soirs de la semaine, pour
bien
vous
sûr.
Joindre. Sans taxe, sans rien, vous attaquez tout de suite sur le 09 69 39 10 11 pour joindre Caroline. C'est ouvert jusqu'à 1h du matin.
Merci Christophe.
Et à demain.
À demain.